Ben bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Et avant de démarrer mon message, j'ai juste quelques annonces qu'on n'a pas faites. Non, mais je me suis gardé le privilège. La semaine prochaine, les Royal Rangers, on va leur remettre leur étoile, on va leur remettre leur badge. Alors on fait une petite fête ici en bas de l'église à 14h. Donc il y a les parents qui sont invités, mais il y a toute l'église qui est aussi invitée pour faire cette petite fête. Donc on vous attend nombreux à 14h. Dimanche prochain. Il y a aussi le camp d'église. Donc on a des feuilles ici. Ceux qui n'auraient pas encore reçu le mail, venez me trouver. Regardez dans vos spams d'abord et puis venez me trouver parce que je vérifie chaque fois si j'ai bien les bonnes adresses mail. Et voilà pour le camp. Alors le camp vous demande quand même rapidement de vous inscrire et de payer un acompte pour voir les places qui vont rester. Donc le camp c'est du... où est-ce qu'il est ? Pas la date. C'est du 8 mai. Au 10 mai, donc c'est au même endroit qu'il y a 2 ans. Donc voilà, prenez un flyer, inscrivez-vous et voyez éventuellement pour payer la compte. Je le mettrai là-bas tout à l'heure. Alors concernant cette prédication, j'ai vraiment pris du plaisir à préparer cette prédication. Et alors je vais essayer de faire un pont avec les ponts de Salvatore de la semaine passée. Alors le Salvatore nous a parlé de ponts la semaine passée. Mais moi, je vais vous parler de destruction de ponts. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'en cas de guerre, la première chose qu'on va détruire, c'est les ponts, parce qu'ils sont stratégiques. Mais moi aussi, je vais vous parler de destruction. Je vais vous parler de la destruction d'une ville et de sa muraille, Jérusalem. Et pour ce faire, je vais vous proposer de faire une série sur Néhémie. Je vais vous proposer, je vais essayer en tout cas, Dieu voulant, une fois par mois, de faire un chapitre de Néhémie, plus ou moins, parce que dans Néhémie, il y a des fois des listes assez longues. Je vous passerai les listes, mais je vais essayer de faire ça, Dieu voulant. Alors, Néhémie, ça signifie Dieu réconforte ou Dieu console. Et c'est un petit peu ce que on a un petit peu besoin dans notre église pour le moment. C'est un petit peu les lectures que j'avais il y a 2-3 mois. Quand les difficultés pour l'Église ont commencé. Et vous allez voir aussi que je me suis un petit peu amusé à aller voir les descriptions des noms. Parce que vous savez que du temps des Israélites, bien souvent, il y avait le nom était lié à une signification. Et le titre que j'ai essayé de donner à cette prédication, alors j'aime pas donner des titres, j'ai cherché pendant longtemps après un titre à la prédication, mais vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir souvent, c'est l'honneur et la gloire de Dieu. Mais on va d'abord prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole Seigneur, merci parce qu'elle est vivante Seigneur, merci parce qu'elle peut nous apprendre tous les jours des choses nouvelles Seigneur. Merci de m'aider à rendre finalement ta parole, Seigneur. Merci d'utiliser ma bouche, Seigneur, pour donner le message que tu veux donner, Seigneur. Et merci de nous aider, Seigneur, à avoir des oreilles attentives ce matin. Amen. Alors, je vous invite à prendre Néhémie. Alors, je pense que c'est important d'avoir sa Bible avec soi. Si vous n'avez pas une Bible, j'en ai mis quelques-unes sur la chaise au bout de l'église. Là. Vous pouvez en prendre une. Et si vous voulez prendre dans cette Bible-là, c'est à la page 333. Mais j'ai à cœur d'utiliser ma Bible. Donc on va lire dans ma Bible, dans la version Genève. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du désespoir. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai. Et pendant des jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, « Ah, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes les alliances et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis dans la prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ô Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Alors on va faire un petit contexte d'abord, un petit peu d'histoire et un petit peu de géographie. Alors d'abord, le livre de Néhémie au départ, il n'est pas seul. Esdras et Néhémie au départ ne faisaient qu'un seul livre. Si vous lisez Esdras, si vous avez la fin d'Esdras, vous allez voir qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de conclusion, on dirait qu'on a oublié quelque chose. Mais c'est parce que c'était vraiment un seul livre. Il y a aussi, pendant cette période aussi, pour ceux qui connaissent, il y a le livre d'Esther qui se déroule aussi pendant cette période. Alors, les livres de l'Ancien Testament ne sont pas regroupés de manière chronologique. Ils sont regroupés par style littéraire. Le Pentateuque, les livres historiques, les livres de la sagesse, les livres prophétiques. Mais chronologiquement, j'ai jamais réussi à le dire, le livre de Néhémie devrait se trouver dans les derniers. Il devrait se trouver peut-être juste avant Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, qui va ensuite laisser une période de silence de 400 ans avant la naissance de Jésus et donc le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous allez voir que je vais mettre des dates. Alors, quand je parle de date, on est dans l'Ancien Testament, donc c'est toujours avant Jésus-Christ. Je n'ai pas toujours remis, mais on est là, en 587 avant Jésus-Christ. Le roi babylonien, Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, la définition ou son nom veut dire « Dieu du feu », a entièrement détruit Jérusalem, son temple, sa ville et ses murailles, et a brûlé les portes et envoyé en exil une bonne partie des Israélites. Mais, en 539, c'est alors la chute de Babylone par le roi perse Cyrus qui a fait chuter Babylone. On va voir dans le récit, si on prend Esdras et Néhémie, qu'il y a trois personnages importants. Alors moi, je vais n'en parler que d'un, mais on va se mettre dans le contexte. On a le premier personnage qui est Zorobabel, un an après la chute de Babylone. Un deuxième personnage qui est Esdras. Donc les références à droite, c'est où on trouve ça dans les livres. Et le dernier, celui qui va nous concerner, c'est Néhémie. Alors on va voir que ces trois personnages vont avoir des récits exactement les mêmes dans ces passages-là. On va voir que Dieu va inciter le roi perse à mandater un leader, un responsable, ces trois noms-là, en donnant des ressources et du soutien nécessaires. Chaque leader, dans son récit, va faire face à une grande opposition, mais il va réussir à la surmonter. Et on va voir que les trois récits se terminent par une consternation, par un abattement. Voyons le premier, Zorobabel, en 538 avant Jésus-Christ. Zorobabel, ça signifie « né à Babylone ». Alors, Zorobabel n'a pas été exilé, il est né à Babylone, mais il est chargé de faire revenir le peuple d'Israël vers Jérusalem. Et c'est le roi Cyrus qui va le faire. Le roi Cyrus, donc, veut dire « trône » ou « puissance suprême ». Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait revenir? Les Perses ont voulu un petit peu changer la politique qu'avaient les Babyloniens. ils veulent une certaine tolérance religieuse, une certaine tolérance pour nos croyances. Ils essayent comme ça, au niveau politique, de regrouper plus de peuples. Ils se rendent compte que ça n'a pas fonctionné avec les Babyloniens, alors ils essayent autrement. Et c'est suite à un édit du roi Cyrus, un édit de tolérance, que Zorobabel a la permission de retourner à Jérusalem. Pour nous, on sait très bien que c'est pas le roi Cyrus qui va faire ça, mais c'est Dieu qui lui a incité ça. Avec Zorobabel, il va y avoir un retour d'un grand nombre d'exilés. Et sa mission, ça va être de... D'abord, il va reconstruire l'autel des sacrifices, et ensuite, il va reconstruire le temple. Ça va lui prendre plus ou moins 20 ans. Et il va faire face, comme j'ai dit tout à l'heure, à une opposition, mais une opposition plus externe. Le deuxième personnage, Esdras qui veut dire « secours ». Là, c'est un autre roi, le même que pour Néhémie. Le roi, ça non plus, je n'ai pas réussi beaucoup à le dire, le roi Artaxerxès, qui veut dire « un grand roi ». Alors lui, il va revenir avec les objets du temple. Alors si vous lisez Esdras, je pense que c'est 8 ou 9, c'est impressionnant, tous les objets du temple avec lesquels il va revenir. C'est le roi perse qui va aller voir en Babylone, qui va aller voir en Perse, tous les objets du temple. Et il va revenir avec des tonnes d'objets, des tonnes d'or et des tonnes d'argent. Alors lui, il ne va pas nécessairement reconstruire, même s'il y aura quand même de la reconstruction, mais il va avoir plus des réformes religieuses. Il va enseigner la Torah. Et il va avoir une opposition plus interne. Et alors Néhémie, pas trop en parler, puisque c'est le personnage qu'on va parler. Lui, c'est aussi le roi Artaxerxès qui le fait revenir. Et lui, alors, il va revenir avec une grande escorte militaire. Il va reconstruire la muraille de Jérusalem et sa ville. Et il va avoir une vive opposition, aussi bien interne qu'externe. Voyons-nous ensemble, verset 1. « Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. » Alors, on va faire un peu de géographie maintenant. Je n'ai pas le pointeur de Boris, mais Suse est ici, et Jérusalem est là. Et ça, c'est l'Empire perse. Babylone est là au-dessus. Donc on voit qu'ils ont été exilés, qu'ils sont redescendus sur Suse, du moins une partie. Et on voit que Jérusalem est à 1200 km de Suse. J'ai pris une autre image, c'est la carte notre carte du monde. Et c'est marrant de voir que... pourquoi ça résonne si fort ? C'est marrant de voir que Suse, il est ici, juste à la frontière de l'Iran, près de l'Irak. Et Jérusalem n'a pas changé de place. Et c'est marrant de voir que cette zone-là du monde est continuellement en conflit. L'Iran et l'Irak, on en a encore parlé il n'y a même pas 15 jours. C'est une zone où vraiment, il y a toujours eu des conflits. Alors Néhémie, il est échanson du roi, officier chargé de servir les vins du roi. Entre guillemets, il avait la vie du roi entre ses mains. Il était probablement responsable de sa sécurité. Il était en contact direct avec le roi perse. Si on voulait transposer à aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est le chef du Secret Service, si je le dis bien, dans le bureau ovale de Donald Trump. Mais c'est un immigré, un juif, qui se trouve loin de son pays. C'est aussi, ce n'est pas un spécialiste religieux. Ce n'est pas un homme de loi. Ce n'est pas un sacrificateur comme Esdras. Non, c'est un homme normal, un laïc, avec un travail normal. Pourtant, nous allons voir qu'il a une théologie tellement grande de Dieu et de son peuple. La situation de Néhémie, elle est à l'inverse de son peuple. Néhémie, il a une situation montante qui le conduit vers les plus hautes positions de l'époque. Le roi perse était, on pourrait dire, l'homme le plus puissant de la terre à cette époque-là. Pour ce qui est d'Israël, c'est autre chose. Il est loin, le temps des rois David et Salomon. En 587, avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor, le dieu du feu, détruit Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu, déporte les Juifs vers la Syrie et vers Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Puis ensuite, ils sont de nouveau déportés en Perse. Mais continuons le récit. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie est dans les couloirs du palais royal. Et il rencontre un frère. Alors, on ne sait pas si c'est son vrai frère ou si c'est un frère comme nous on peut dire. Mais il rencontre Hanani. Hanani, ça veut dire l'Éternel est compatissant. Et Hanani, il revient de Jérusalem. Alors Néhémie, lui, n'a sûrement jamais été à Jérusalem. Il a été déporté vers la Perse et il est plus que probablement né là-bas. On ne le dit pas, mais Néhémie fait une chose. Il s'intéresse. Il s'intéresse à son peuple. Et nous allons voir qu'il ne s'intéresse pas qu'à son peuple, mais qu'il s'intéresse à la gloire de Dieu. Il aurait pu ne pas s'intéresser, il aurait pu juste dire bonjour, bonjour mon frère, et continuer son chemin. Mais non, il s'intéresse, il a un grand intérêt à son peuple et à la réputation de son Dieu. Est-ce que je m'intéresse aux choses de Dieu? Est-ce que je m'intéresse au spirituel? Est-ce que je suis intéressé par mon propre état spirituel? Est-ce que je suis intéressé par l'état spirituel de ma famille? Et quelque chose qui s'applique peut-être plus encore à nous, est-ce que je suis intéressé par l'état spirituel de mon Église? Est-ce que la gloire de Dieu et sa réputation sont une priorité dans vos vies, comme pour celle de Néhémie? Mais on va regarder au verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et les portes sont détruites. Waouh ! Les nouvelles ne sont pas bonnes. Jérusalem se trouve dans un état de malheur et de déshonneur. Les murailles sont détruites, les portes sont brûlées. On voit un état spirituel de ruine et de décombre. Ils sont tournés en dérision, eux et leur Dieu, tous les voisins des provinces perses et au-delà de l'Euphrate se moquent d'eux. Les murs symboles de protection sont abattus, les portes symboles de louange sont brûlées et le nom de l'Éternel est tourné en ridicule. On s'est intéressé à notre bilan spirituel, mais est-ce que vous avez déjà fait un bilan spirituel de votre vie? Quel est mon état spirituel? Quel est l'état spirituel de ma famille? Quel est l'état spirituel de notre Église? Ou autrement dit, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est peut-être votre travail? Est-ce que c'est votre argent? Est-ce que c'est votre réputation? Ou est-ce que c'est l'honneur et la gloire de Dieu? Nous ne savons pas si Néhémie connaissait déjà la situation de son peuple ou s'il vient juste de l'apprendre, mais cela lui fait un énorme choc. Il va être complètement abattu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant des jours je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie a probablement un emploi du temps très chargé. Mais quand il entend cette mauvaise nouvelle, il s'arrête, il s'assoit, il pleure. Il est dans le deuil et il prie. Quel constat ! Ça, c'est bizarrement. Pour Néhémie, on pourrait considérer que tout va bien pour lui. Il a une situation parfaite, il a une vie parfaite, il a un emploi parfait. Mais pourtant, quand il entend cette mauvaise nouvelle, il est complètement affligé, complètement abattu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être complètement affligé, complètement abattu suite à une nouvelle qui vous pousse à vous arrêter? Peut-être cela ne vous est jamais arrivé ou peut-être ça vous est déjà arrivé. C'est souvent dans des situations de maladie ou de cancer pour nous ou pour un proche ou dans une situation de deuil qu'on a besoin de s'asseoir, de pleurer et de prier. J'ai eu l'occasion, moi, avec ma famille, une fois, ça a été très bizarre quand même, on a eu un oncle qui avait un cancer, qui est décédé il y a 2-3 ans. C'était prévu, on le savait. Donc la famille était prête. Sauf qu'on a enterré mon oncle. Le lendemain, c'est l'autre oncle qui mourait, mais là, d'une crise cardiaque. Et je peux vous dire que là, dans toute la famille, tout s'est arrêté. On s'est retrouvé dans la cour de sa maison, il y avait tout le monde, il y avait les cousins, les cousines, les sœurs, les frères, tout le monde était là. Tout le monde avait arrêté tout et on s'était retrouvé pour soutenir toute la famille. Mais revenons au texte. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cet état, dans l'état de Néhémie, pour votre pays? Pour certains, ce sera la Belgique, pour d'autres, ce sera peut-être la Pologne. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cet état pour votre ville? Avez-vous déjà, ne serait-ce que pleuré, pour l'état de ruine et de désolation spirituelle de votre ville? Cette ville où les habitants se sentent tout puissants, qui n'ont pas besoin de Dieu, où chacun est son propre Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à l'état spirituel de votre église ici à Glen? Avez-vous déjà pleuré pour votre église? Sur ces 5 dernières années, ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer pour mon église, réellement pleurer. Vous êtes-vous déjà mis dans cette étape pour l'honneur et la gloire de Dieu? Et c'est l'enjeu ici que Néhémie a bien compris. L'honneur et la gloire de Dieu n'est pas respecté. Néhémie a le cœur complètement brisé. Et je pense que c'est à cet instant que se produit un réveil dans la vie de Néhémie. Je pense qu'on attend toujours tous des grands réveils, mais le réveil, il commence dans des vies. Il commence personnellement dans des vies. Néhémie se rend compte que ça ne doit pas rester ainsi, qu'il faut agir. Mais c'est assez impressionnant. Vous allez voir comment Néhémie va entreprendre ça. Comment Néhémie va réagir face à cette nouvelle et face au réveil dans sa vie. Néhémie ne va pas aller courir chez l'empereur. Il ne va pas aller dire « Oh, il faut faire quelque chose, ça ne va pas, Jérusalem est détruite. » Non, non, non. Surtout que ça aurait pu être dangereux pour sa vie à l'époque. Les lois des Mèdes et des Perses, c'était quelque chose qui avait une mauvaise réputation. Mais regardez ce qu'il va faire. On va lire les versets 5 et 6. Et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Néhémie? Il va se mettre en prière. Il va prier, Néhémie. Il va se rendre compte de sa petitesse. Il va se rendre compte que par ses propres forces, il ne peut rien faire. À vue humaine, c'est impossible. Surtout que dans Esdras 4, les versets 16 à 21, on ne va pas les lire, mais si vous voulez aller voir, le roi Artaxerxès a déjà fait arrêter les travaux de reconstruction de Jérusalem et de sa muraille. Il avait même dit que ça ne pourra recommencer que si je l'autorise. Moi, si j'avais dû faire une prière à ce moment-là, j'aurais peut-être dit, « Seigneur, tu connais le problème, alors règle-le. » Mais ce n'est pas ce que Néhémie va faire. Commençons nos prières. N'avons-nous pas tendance, moi aussi, à faire des prières courtes, avec le strict minimum? N'avons-nous pas tendance, des fois même, à négocier avec Dieu? À lui dire, si tu me donnes ça, je ferai ça. Prendre un exemple qui n'a pas trop nous concerné, mais si tu me fais réussir mes études alors que je n'ai pas étudié, je deviendrai missionnaire. Mais regardez, combien de temps Néhémie va prier? La prière de Néhémie était loin d'être courte. Au verset 3, on nous parle il nous parle de plusieurs jours. Et les commentateurs considèrent qu'il a prié du mois de Kisleu. Donc si vous regardez le verset 1, le mois de Kisleu, donc le mois de novembre-décembre du calendrier perse, jusqu'au mois de Nissan. Et alors je ne l'ai pas lu ça, mais c'est le premier verset du chapitre 2. Qui correspond plus ou moins au mois de mars-avril. Donc, on considère que Néhémie a prié jour et nuit, il le dit. Il a prié pendant 3 à 4 mois. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit. Quelle prière fervente, quelle persévérance. Alors, je ne pense pas qu'il ait prié 24 heures sur 24. Hein. C'est peut-être humainement impossible. Mais il était dans un état de prière continuelle. Mais on va maintenant regarder comment Néhémie aborde sa prière. Et cette prière, elle a, je trouve, beaucoup de similitudes sur l'enseignement que Jésus nous donne sur la prière dans Matthieu, donc le Notre Père. D'abord, il commence sa prière dans un esprit d'adoration et de louange. Il prie Dieu pour ce qu'il est. On peut lire Dieu des cieux, grand et redoutable. Alors, je suis allé voir la définition de redoutable. Redoutable, c'est très grand. Redoutable, ça veut dire craint fortement. Et on va reparler de la crainte de Dieu à la fin du message. Donc, on a un Dieu des cieux, grand et redoutable, mais aussi bienveillant ou bon envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. On a aussi un Dieu fidèle, il garde l'alliance. Il a fait des promesses et elles vont s'accomplir. Néhémie met les choses en perspective. Il sait qu'il a un grand Dieu. Il sait qu'il est au contrôle de toutes choses. Et en se rendant compte de ça, je suis sûr qu'il va déjà beaucoup mieux. Le problème, c'est que souvent, on est accablé par le poids de nos soucis. Nous ne voyons pas de solution. La panique et la crainte s'emparent de nous. Et c'est révélateur d'une grande incrédulité. Nous montrons que nous croyons plus en nos soucis qu'au Dieu des cieux, ce Dieu grand et redoutable. Nos soucis sont grands parce que notre Dieu est petit. Quelle est la taille plutôt du Dieu des cieux dans votre vie? Quelle est la taille du Dieu des cieux dans votre famille? Quelle est la taille du Dieu des cieux dans notre Église? Ensuite, il va prier pour l'exaucement de sa prière. Il demande au Dieu des cieux, au Dieu grand et redoutable, il lui demande d'avoir une oreille attentive, de l'écouter et des yeux ouverts. Or, cela aurait pu paraître prétentieux. Il s'adresse quand même au Dieu grand et redoutable. Il lui manque peut-être de respect. Mais regardez un peu dans le texte. Il ne vient pas avec ses propres forces. Il ne vient pas avec la liste des choses qu'il a accomplies. Regarde Dieu comme je suis fort. Regarde tout ce que j'ai accompli. Non, il vient à Dieu tel qu'il est. Il ne vient pas à Dieu avec un masque. Il se présente à Dieu tel qu'il est, les mains vides, avec un grand besoin de grâce. Il remet les choses en perspective. Il a prié Dieu d'abord pour qui il est, maintenant il va prier Dieu pour qui il est lui. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce qu'il est lui? Un pécheur. Il prie pour la confession des péchés. Il a compris que c'était le plus important pour s'approcher de Dieu. Il sait que Dieu a horreur du péché. Et ceux qui ne gardent pas ses commandements, pour faire référence à ce qu'il disait, qu'il aime ceux qui gardent ses commandements, mais qu'il n'aime pas ceux qui ne gardent pas ses commandements. Il sait que pour avoir l'exaucement de sa prière, il faut une confession. Il faut se rendre compte de son état de pécheur et demander sincèrement pardon. Comme dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Il est également intéressant de voir que Néhémie prie pour les péchés des Israélites. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il n'est pas responsable des péchés de son peuple, puisqu'il n'était probablement pas là et qu'il est né en Perse. Pourtant, à la fin du verset 6, on peut lire « Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et demi, pour tes serviteurs et les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. » Regardez les péchés. D'abord, il va dire que c'est les péchés des Israélites, puis ensuite, il va dire nos péchés, il les prend quand même pour lui, et puis il va dire moi, mes péchés, moi et ma famille, nous avons péché. Il sait qu'il est un pécheur, qu'il n'a pas respecté les commandements de Dieu. Il s'associe au péché de son peuple, mais aussi il est conscient de son propre péché. Au verset 7,
Il est écrit, nous avons mal agi envers toi. Nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Néhémie connaît la Torah. Il sait les conséquences du péché pour les Juifs. Et les conséquences, on les trouve au verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèle, je vous disséminerai parmi les peuples. Si nous ne respectons pas ces commandements, nous serons... Enfin, le peuple ici a été décimé. C'est dans l'état dans lequel il se trouve à l'époque de Néhémie. Mais après avoir prié Dieu pour qui il est, et après avoir prié Dieu pour qui il est lui, un pécheur, il va alors faire sa requête. On peut la lire à partir du verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèle, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors même que vous serez banni à l'extrémité du ciel, là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai vers les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Or, sur quoi Néhémie va baser sa prière? Souviens-toi de cette parole. Alors ici, on se base, nous, sur la Bible. Lui, il se basait sur la Torah. Et il se base, en réalité, sur deux versets. On va aller voir dans Deutéronome. Regardez, je ne prends pas trop de temps, non, ça va. Deutéronome 9, versets 26 et 29. Deutéronome 9, 26 à 29. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as libéré par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par une main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac, Jacob. N'aie pas d'égard à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. De peur que les gens du pays d'où tu nous as fait sortir, ne disent. C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple, ton héritage, que tu as fait sortir d'une grande puissance et d'un bras tendu. Et Deutéronome 30, les versets 4 à 5, c'est agréable d'entendre les pages qui tournent. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel, ton Dieu, te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères. Et tu en prendras possession. Tu le feras, tu te feras du bien et il te fera du bien, pardon, et reprendra, et te rendra plus nombreux que tes pères. C'est sur cette base-là que Néhémie va fonder sa prière, sur parole de Dieu, et aussi sur les promesses. C'est une promesse, en réalité, qu'il fait ici. Alors, il l'a fait aux Égyptiens, mais elle est en cours d'actualité pour les exilés, et elle est en cours d'actualité pour nous, aujourd'hui. La parole, les promesses. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des prières qui peuvent être directement exaucées? On peut être sûr que ces prières vont être exaucées. C'est ce que fait Néhémie en réalité ici. Si nous, on devrait dire aujourd'hui, par exemple, une prière qu'on peut être sûr qui va être exaucée, si on prie que Jésus revienne un jour, on ne sait pas quand, mais on peut être sûr que ça va arriver parce que c'est une promesse. Si on prie sur base des promesses que Dieu nous a faites, on peut être sûr qu'elles vont s'exaucer. Néhémie sait que son peuple, la ville de Dieu, va un jour être rétabli, parce que c'est une promesse et qu'il l'a déjà fait auparavant. Sur sa parole, sur ses promesses, et ce que je dis depuis le début du message, sur son nom, sur la ville où va résider son nom. De nouveau, Néhémie met l'accent sur le nom de Dieu, sur le nom, l'honneur et la gloire de son nom. Il dit à Dieu qu'il ne peut pas laisser son nom sali et bafoué ainsi. C'est sa réputation, car il est le peuple choisi par Dieu. Malgré des siècles d'infidélité, c'est le peuple qui est associé à son nom. Et nous avons aussi ce nom qui est associé à nous. Ce nom qu'on peut voir dans notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Cette importance du nom de Dieu. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et ta main forte. Néhémie sait qu'il a un Dieu puissant. Et il dit ici qu'il a déjà libéré son peuple de la main des Égyptiens. Il sait qu'il peut encore le faire, qu'il n'y a aucun problème pour lui à faire ça. Les termes que Néhémie utilise, c'est exactement donc les mêmes termes qu'on a lus dans le Deutéronome, c'est « libérer, délivrer ». Alors, ce n'est pas une mauvaise chanson de Disney, mais ça veut littéralement dire « rachat ». Il s'agit d'une rédemption. Comme Dieu l'a fait pour délivrer les Israélites de la main des Égyptiens, Néhémie est dans la même situation. Et il fait cette prière, il fait cet appel à Dieu. Nous avons donc un homme, Néhémie, avec le cœur brisé, qui se met à prier avec ferveur et persévérance, sur base de la parole, sur base des promesses faites par Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable. Et tout ça, pourquoi il le fait ? Pour l'honneur et la gloire de son nom. On va voir que, au verset 11, on va le lire, « Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et que la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors et chanson du roi. » Qu'est-ce que ce dernier verset nous enseigne encore? D'abord, il prie pour avoir une oreille attentive. Il prie en réalité pour que Dieu l'écoute. Pour qu'il l'écoute pourquoi? Regardez. Pour qu'il écoute sa prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. J'ai parlé tout à l'heure de la crainte du nom. Alors à la réunion de prière, je pense pas cette semaine-ci, il y a 15 jours, Marie-Paul m'a demandé ce que c'était. Craindre ton nom. Et j'avais l'impression que ça avait des conséquences énormes. Alors je suis allé voir la définition dans le dictionnaire. Mais on va d'abord voir ici. J'ai juste pris, je ne fais pas ça habituellement, plusieurs versions de Bible pour la traduction. Donc, il prie pour ceux qui veulent craindre ton nom, dans ma version, ou qui désirent craindre ton nom. Alors, la phrase est courante, elle va dire ça autrement. Elle va dire qu'ils trouvent leur joie à t'honorer. Craindre le nom de l'Éternel, c'est l'honorer. Et moi, celle que je préfère, et, c'est une version où je lis beaucoup dedans, c'est la version Darby. Pourquoi est-ce que je dis dans cette version? Parce qu'elle est fort proche de l'hébreu et du grec. Mais pour l'utiliser, c'est assez difficile parce qu'elle les prend vraiment mot pour mot. Et c'est pour ça que je pense pas que je prêcherai un jour avec une version Darby. Mais elle dit ça. Pour ceux qui prennent plaisir à craindre ton nom. Est-ce que vous prenez plaisir à craindre le nom de l'Éternel? Alors, je suis allé voir la définition. La définition dans un dictionnaire biblique, bien sûr, le dictionnaire de Westphal. Alors, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas tout dire. Mais si vous voulez, je peux vous donner une copie. Après, il y a des versets aussi, chaque fois, qui sont attachés. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment d'une créature faible, misérable, devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Un sentiment d'une disproportion effrayante. En même temps, une étroite dépendance. Cette crainte, elle est éveillée dans les cœurs, non seulement par la juste sévérité de Dieu, mais aussi par ses bienfaits. La crainte de Dieu, c'est le début de la connaissance et de la sagesse. Elle implique une acceptation de l'autorité souveraine de Dieu et du désir de faire sa volonté. Alors elle est liée, cette crainte de Dieu, à des bienfaits. Mais, attention, j'ai parlé d'un Dieu grand et redoutable. Et cette crainte, elle peut être liée à la peur, dans un seul cas. Pour celui qui repousse le salut et qui s'obstine à la désobéissance. Cette crainte de Dieu peut être redoutable pour celui qui refuse le message de Christ, qui refuse et qui s'obstine et qui désobéit. Et on va encore voir deux choses. On va arriver au bout. Je ne suis pas... Ah bah. J'ai mis plus de temps quand je l'ai répété. À la fin du verset, il va encore nous enseigner deux choses. Néhémie avait un plan. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Néhémie n'est pas resté assis. Et ça, c'est pour nous, pour moi, que j'applique ça personnellement. Il n'est pas resté assis sur sa chaise et prié uniquement. Non, il avait quelque chose en tête. Il avait un plan. Il avait des projets. Il n'a pas attendu que tout lui tombe du ciel. Je vais attendre que Dieu me dise ce que je dois faire. Non, il s'est mis en marche. Il a pris les choses en main. Et Néhémie avait une situation. Dans ce cas-ci, il était les chansons du roi. Il n'était pas n'importe qui. Il était le numéro 2 presque en Perse. Mais il avait à cœur l'état de son peuple. Et surtout, la gloire et l'honneur de Dieu. Peut-être que ce message parle plus particulièrement à ceux qui, pour qui tout va bien. Tout va bien dans ma vie. J'ai un bon emploi, j'ai un bon travail, tout va bien. Mais c'est là où Dieu nous rappelle que c'est peut-être là aussi que vous avez un grand rôle à faire et agir. On va encore voir une dernière chose. C'est que Dieu, c'est que Néhémie, dans sa prière, il va dire, donne du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Alors regardez, le roi, cet homme, c'est en réalité le roi Artaxerxès. Il va le mettre au même niveau que lui, un homme, devant ce Dieu grand et puissant. Il va rappeler que le roi n'est que un pion, si on veut, n'est que quelqu'un que Dieu va utiliser dans son plan parfait. Et alors, pour vous préparer au prochain message, chapitre 2, nous allons voir que Dieu a répondu à la prière de Néhémie, qui va lui donner les faveurs du roi et du succès, en partie. On va être très mitigé par rapport au succès, mais on en reparlera dans les autres chapitres. Pour conclure, je voudrais vous parler d'une promesse. Alors, je pense que j'ai parlé de Deutéronome, mais il y a aussi une promesse que Néhémie devait avoir en tête, une promesse qui se trouve dans les chroniques. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors je vais tout de suite faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je pense que ces paroles ne s'adressent pas nécessairement à nous. Ça va? Mais on va voir comment on peut les prendre pour nous, à la lumière de ce qu'on sait, à la lumière de la parole qu'on a, à la lumière de Jésus. Première chose, si mon peuple, alors on n'est pas israélite, on n'est pas juif, donc ça va déjà faire bizarre, si mon peuple, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans la parole? Si on acceptait Christ comme sauveur et seigneur de notre vie, on ne parle plus nécessairement de peuple, il y en a un qui l'a prié dans sa prière tout à l'heure, on est enfant de Dieu. Ce nom aussi qui est invoqué, donc la deuxième partie, sur qui est invoqué son nom. Le nom que nous devons invoquer, c'est Jésus. Jésus mort pour nos péchés. Jésus, c'est le plus bon nom. J'aurais pu vous chanter ça. Jésus, c'est le plus bon nom. Et Jésus fait maintenant une nouvelle alliance avec nous, avec chacun d'entre nous, par pure grâce. Mais on a quelque chose à faire. On a notre part aussi à faire par rapport à ça. Le premier, c'est s'humilier. Qu'est-ce que c'est s'humilier? C'est avoir une pensée correcte au sujet de Dieu. C'est évaluer qui on est devant ce Dieu des cieux, ce Dieu grand et redoutable. On aurait pu lier cette humilité à la crainte de Dieu aussi. Je pense que la crainte de Dieu liée aussi à l'humilité. Et vous voyez, juste faire l'inverse d'humilité. L'inverse d'humilité, c'est orgueil. Si nous avons trop d'orgueil, nous n'avons pas d'humilité. Première chose donc, s'humilier. La deuxième, prier. Alors, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui de la prière. Comment aborder la prière? Troisième chose, je cherche sa face. C'est ce que nous cherchons personnellement à connaître le Dieu de sa parole. le Dieu de ses promesses. Bon, je ne vais pas l'enlever, sinon je vais faire tomber toutes mes feuilles. Mais... Hop. C'est dans la Bible que nous allons trouver cette parole, cette promesse. C'est dans la Bible que nous allons chercher sa face, par la prière également. Mais quelle est l'importance de cette parole, de cette Bible, pour vous, dans vos vies? Est-ce que c'est une belle Bible avec des belles dorures, là, qui est dans une étagère, ou est-ce qu'elle a une grande importance pour vous? Ces deux-là, c'est la prière et le fait de chercher sa face, ça va nous donner aussi une relation que nous allons avoir avec le Dieu grand et redoutable. Ensuite, quatrième chose, on a parlé aussi plusieurs fois par rapport au peuple, et surtout, se détourner de ses mauvaises voies. Bon, j'aime moins, ça a l'air tout gentil comme ça, mais nos mauvaises voies, c'est nos péchés. Nous sommes tous pécheurs. Le peuple était pécheur. Néhémie était pécheur. Mais nous ne valons pas mieux. On est aussi tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de pardon. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Notre péché nous empêche d'avoir accès à la gloire de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, si nous nous tournons vers Christ, alors il nous donne accès à la gloire de Dieu. Et voyons ce que Dieu va faire alors. Si nous humilions, si nous prions, nous cherchons sa face, et si nous détournons de nos péchés, alors là, Dieu dit, le Dieu grand et redoutable, il dit, je vous exaucerai, je vous écouterai. On a parlé plusieurs fois de cette oreille attentive de Dieu. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je vous exauce et je pardonnerai vos péchés. Alors cette phrase, elle a une toute autre saveur pour nous par rapport au peuple d'Israël. Nous n'avons plus besoin de faire des rituels, des sacrifices. On n'a plus besoin d'avoir un sacrificateur comme Esdras pour porter nos péchés. Non, nous avons Jésus, le seul qui n'a pas péché, le seul qui n'a pas commis de péché, mais qui s'est donné lui-même en sacrifice pour nous sur la croix. Il est mort sur cette croix pour faire, comme j'ai dit tout à l'heure, une nouvelle alliance, un vin nouveau. Une alliance perpétuelle, il n'y a pas besoin de la recommencer chaque fois. Il l'a fait une seule fois, une fois pour toutes. Et qu'est-ce que ça apportera alors? Je guérirai. Alors ici, là, je pense que cette phrase-là, il faut la changer. Il guérira plus ce pays, mais il va guérir ce cœur. Ce cœur qui était mauvais, qui m'empêchait de me présenter devant Dieu. Eh bien, Jésus l'a rendu propre. Ce cœur qui était noir, par son sang, il a fait en sorte que nous soyons guéris. Il n'y a plus une guérison d'un peuple, mais c'est une guérison personnelle. Pour autant que vous ayez confessé vos péchés, que vous désirez mettre Dieu à la première place de votre vie. Alors voilà un peu si j'avais dû changer la formulation de ce texte. Ce serait si Joël, si Lilo, si Daniel, si Clarisse, si Camille, si Myriam, si Edwige invoquent le nom de Jésus. S'humilie, prie, cherche ma face et confesse son péché. Alors Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son cœur. Si nous nous détournons de nos péchés, si nous cherchons sincèrement Dieu dans une attitude d'humilité et de crainte de Dieu, nous avons la certitude qu'il nous exaucera, qu'il pardonnera nos péchés et qu'il nous guérira. Amen. On va prier. Ah, Dieu des cieux, grand et redoutable, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de ton Église. Aide-nous à considérer ton honneur et ta gloire comme ce qui est de plus important. Pardonne-nous si nous t'avons offensé. Pardonne-nous si nos activités, si nos actions, si notre péché a déshonoré ton nom. Aide-nous à être une famille qui déborde de ton amour pour la gloire de ton nom. Amen.